Comité de la santé que Gilles a mentionné, où des recommandations de pratique clinique ont été lancées et validées en fait par l'autorité. Le CNGOF a proposé une RPC donc, dont le titre était « Critères de sélection des grossesses à bas risque avec pour objectif l'adéquation à l'offre de soins ». Bon, et ça a été, bon, tout le monde a dit oui, c'est très bien de travailler là-dessus. Alors, le collège des sages-femmes qui était présent, ben, il y a eu une discussion après assez vive, paraît-il, avec les sages-femmes et les représentants du CIAN et puis le CNGOF de l'autre côté, en disant c'est très bien, mais il faudrait quand même il faudrait nommer ça différemment. Alors, le titre qui a été retenu finalement, c'est Définition de la grossesse physiologique et orientation des femmes enceintes. Ce qui veut dire, dans le fond, ça veut dire la même chose, mais oui, c'est un autre point de vue. Pareil. Parce que orientation des femmes enceintes, ça veut dire aussi réflexion sur les lieux d'accouchement.
Oui, oui, hein?
Donc ça ouvre la porte à dire les femmes qui ont une grossesse physiologique, elles peuvent peut-être accoucher dans les maternités, peut-être dans des maisons de naissance, dans les lieux dits physiologiques, etc. L'accouchement à domicile, etc. Quoi. En même temps, la CNAM a proposé une RPC sur l'accouchement à domicile. C'est important à signaler. Elle, qui a été refusée, mais... peut-être parce qu'il y en a quand même 5 qui ont été acceptés, c'était peut-être un surnombre. Mais on s'est dit qu'à partir du moment où on commence à parler d'orientation des femmes enceintes, on va pouvoir introduire la question de l'accouchement à domicile. Pour la CNAM, la motivation est principalement financière, économique. Ils savent que ça va faire des économies, donc on pousse ça. Mais bon, après tout, oui, Francine.
À ce propos-là, je pense que c'est important. L'engagement des usagers.
Oui.
Parce que les vieux militants que nous sommes, on s'est quand même fait envoyer à travers la figure nombre de fois que, ouais, vous vous défendez ça, mais pour qui le défendez-vous Parce que bon, les gens qui n'ont pas de caractère, on peut se dire que c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'être sous la soumission des médecins, etc. Donc, on voulait faire des services pour les sages-femmes, où les sages-femmes seraient enfin libérées de la joute épouvantable que représentaient les médecins. Donc c'est extrêmement important
que
les usagers s'engagent là-dedans. Et à propos des lieux physiologiques de naissance, bon, les maisons de naissance, on sait qu'en France, on est, pour des tas de raisons, on n'arrivera pas tout de suite à obtenir ça. Les seules choses qu'on pourra peut-être obtenir, ce sont des lieux physiologiques à l'intérieur des hôpitaux et indépendants des plateaux techniques, par les salles
physiologiques,
donc il y a des projets, il y en a un en particulier, enfin il y en a plusieurs sur Paris, il y en a un sur Paris-Bicêtre, où nous aurons besoin des parents, parce qu'il faut que les parents soient partie prenante dans l'organisation de ces lieux-là, et qu'ils les fassent fonctionner. En même temps que
Francine, il faut faire connaître ça parce qu'il y a des parents qui se disent nous, on ne nous appelle jamais, comment ouvrir les portes qui nous sont fermées. Enfin, tu vois, comment se faire rencontrer des gens. Moi, je travaille beaucoup sur Internet. C'est très important de mettre ça en avant aussi. Et je n'ai pas toutes les clés du comment et de alors, faire se rencontrer les gens, mais ça, c'est important.
J'en ai parlé à Gilles, et puis j'en ai parlé à Bécon. L'autre fois, bon, il y a sur Kremlin-Bicêtre un projet de ce lieu-là. On commence à y réfléchir et on n'a pas voulu lancer les choses plus tôt parce que rien n'était concret. Mais il va falloir qu'on crée une association et qu'on puisse gérer ça. Et
que les
parents soient là.
Oui,
parce que
c'est fondamental.
Notre fonctionnement médical, on l'a relativement bien clair dans la tête, mais il faut se confronter avec,
la demande
votre compréhension, si j'ose dire. Et puis, il y a... là, c'est vrai que bon, on a focalisé sur les positions, on focalise sur une certaine technique. Mais, je veux dire, tout ça, ça s'inscrit dans un ensemble. Et notamment, l'accouchement est un temps fort de la maternité, mais ça n'est pas le seul. Et il y a quand même tout le suivi avant et tout le suivi après, qui est justement cette notion des suivis globales et qui est fondamentale pour le bon fonctionnement. Sinon, on aboutit à quoi? On aboutit au folklore. C'est-à-dire, les femmes, on va les faire accoucher, un coup sur le côté, un coup à quatre pattes, un coup comme ceci, un coup comme cela. Mais en fin de compte, ça, c'est un moment fort dans toute une autre continuité. Et je crois que ça, il faut vraiment qu'on en soit bien tous persuadés, aussi bien les professionnels que les parents. Et dans ces lieux physiologiques, ou les maisons de naissance, il y aura... qui, à mon avis, est un soubassement aussi important que la qualité médicale qui devra s'y livrer.
Oui. Viviane, oui.
Oui, pour quels usagers, hein, Francine, c'est ça qu'on te répond.
Oui, c'est ce qui souvent on souvent nous dit, il n'y a pas de demande.
Ben oui, mais
on leur dit, mais si, il y a de la demande. On dit, mais non, il n'y en a pas.
Je voudrais vous parler d'un projet que j'ai, qui serait spécifiquement pour soutenir l'accouchement à domicile, pour essayer de prévenir la disparition de cette pratique à moyen terme en France, parce que les très, très peu de praticiens qui pratiquent encore cela sont pas forcément très jeunes, il y en a très peu.
Il y a des jeunes à Marseille.
Ils pratiquent dans des conditions extrêmement difficiles.
Il y a de la relève.
Il y a de la relève.
Il
y a des jeunes à Marseille.
Ils ne sortent pas forcément de l'école avec les outils en main pour pratiquer à domicile.
Ah, c'est sûr.
Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, j'ai le projet de soit réactiver une des anciennes associations qui existaient, genre Naître à la maison, soit en créer une nouvelle si c'est nécessaire. Je suis en train de me demander s'il faut que ce soit une association de parents, et à ce moment-là, moi, je m'engagerai en tant que parent, pas en tant que doula, ou s'il faut que ce soit une association professionnelle et parents, je ne sais pas très bien, en réflexion, tout ça. Et on est en train, avec Cécile, qui était maman qui est partie la dernière jour, qui a accouché à la maison, de réfléchir à ça et de faire un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui en France, avec dans l'idée de recontacter, alors c'est un immense boulot, hein, mais de recontacter le plus de personnes possible qui a accouché à la maison depuis à peu près 50 ans, de faire éventuellement signer une pétition, parce que finalement ces gens-là sont très engagés, même s'ils ne sont plus du tout dans le coup, s'ils sont passés à autre chose dans leur vie, ça a été tellement important ce moment que... Ils sont prêts simplement à dire oui, moi j'étais là, même s'ils ne s'engagent pas plus que ça. Donc pour prouver que ce n'est pas complètement virtuel cette histoire de désir d'accoucher à la maison.
Ce n'est pas un retour aux sensations fortes.
Et puis que ça n'a aussi rien à voir avec les pratiques d'accouchement à la maison d'il y a 70 ans.
Oui, tout à fait. Et en Angleterre, on a des taux d'accouchement à la maison actuellement qui sont en montée, qui ont doublé très rapidement après la commission Changing Childbirth. Actuellement, dans certaines villes anglaises, on a des taux qui approchent 20, qui sont de 20 à 30%, quoi. Il y a des décisions, par exemple, au Pays de Galles, du gouvernement du Pays de Galles, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui a décidé d'obtenir 10% sur l'ensemble du Pays de Galles en moyenne, quoi. Donc, c'est des taux importants.
Ça, c'est parce que le gouvernement
parce que le gouvernement a repris en main
comme tout ce aussi sécuritaire.
Ah oui, c'est ça, l'accouchement
à domicile. Donc là, c'est une évidence nationale.
C'est une évaluation, c'est-à-dire que quand les pratiques sont déplacées, on les corrige individuellement. En France, quand elles sont déplacées, mal évaluées, on jette tout.
Oui.
Voilà. L'accouchement à domicile est largement toléré en Grande-Bretagne, sous réserve qu'il n'y ait pas de problème. Donc, quand il y a un problème, on regarde le problème, comme dans les services.
Exactement.
Oui. Est-ce qu'il était prévisible, pas prévisible? Si il est prévisible, au niveau professionnel, vous avez dérapé, serrez les boulons, là, parce que...
Oui.
Et puis c'est tout.
Madeleine, vous voulez parler?
La réflexion ou les moyens, je ne parle pas nécessairement financiers, mais par exemple, recontacter des gens, peut-être qu'on fera appel aux praticiens qui, eux, peuvent le faire, parce que déontologiquement, on ne peut pas avoir.
C'est le moyen.
Enfin, je ne sais pas, c'est en réflexion.
Prendre un relais, oui.
Madeleine?
C'est pour Madeleine, je crois.
Moi, je voulais juste dire que je pense qu'il faut que cette association-là soit essentiellement des usagers. Avec, en contactant des professionnels qui accepteront, parce que peu à peu, enfin, les gros problèmes qu'il y a autour de l'accouchement à domicile en France, c'est la crainte du procès. Alors là, on l'a complètement, surtout qu'on sait qu'on travaille sans assurance pour le moment. Donc, c'est vraiment la crainte du procès. Donc, il faut que les usagers rassurent les professionnels aussi, pour leur dire, enfin, fassent comprendre quelle est la démarche.
Oui, d'accord. Hein? Il y a d'autres dimensions au niveau du procès. Ça ne vient pas que des parents dans les faits. Donc,
je sais bien,
c'est pas évident.
Mais je parle, moi, je me mets à la place
du
professionnel. Il y a la crainte parce qu'on est élevé dans les CHU et on se dit que toutes les pathologies des CHU sont à domicile, donc c'est pas... Ouais. Bon, et ça, il y a tout à réapprendre, la physiologie. Ah, ça et c'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour ces lieux physiologiques, parce que je me dis que même s'ils sont imparfaits, ce sera quand même des lieux qui seront accrédités par le pouvoir pour pouvoir faire des lieux où on va regarder véritablement...
Oui, travailler physiologiquement, donc ça c'est
donc ils sont nécessaires, même s'ils ne sont pas indispensables.
Pas,
j'espère que tôt ou tard, on s'en débarrassera. Donc je crois que c'est comme ça, mais on peut travailler ensemble.
On va les former.
Mais que ce soit surtout une mobilisation citoyenne, vraiment. C'est ça ma réflexion. Moi, j'attends que ça soit une opinion. Hein.
D'accord, oui. Il y a une envie de convergence. Okay.
Parce que je trouve qu'ici, en région parisienne, on a quand même la chance d'avoir une petite dizaine de praticiens, même si tous les praticiens ne pratiquent pas que l'accouchement à domicile. Ça représente un certain nombre de parents. Il y en a de plus en plus qui demandent, d'après ce que je crois savoir. Et donc, profitons de cette espèce de dynamisme qu'il y a dans cette région. Il y a, je crois, une ou deux autres régions en France où c'est dynamique aussi. Et puis, beaucoup de régions, ça n'est même plus disponible. Et c'est pas normal.
Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Il n'empêche que le nombre de praticiens qui font les accompagnements à domicile reste à peu près stable depuis que moi j'ai créé le répertoire sur Internet. Entre ceux qui s'en vont parce que c'est comme ça, et c'est un choix. Des fois c'est une naissance, des fois c'est plein d'autres raisons. Il y a quand même d'autres personnes qui arrivent et ça s'équilibre quand même. À peu près.
Oui.
Ah ben, il suffit de compter sur le répertoire.
Il y a des nouveaux à Marseille, par exemple.
Et encore, le répertoire ne recense pas tout le monde. Il y a des personnes qui ne veulent pas être sur ce répertoire. Ou que je ne connais pas, ou que personne ne m'a fourni au niveau coordonné.
Madeleine. Je voulais dire que depuis une dizaine d'années que je m'intéresse à la naissance, je trouve qu'il y a lieu d'être optimiste. Je trouve qu'il y a quand même énormément de transformations et que je trouve que le discours des usagers comme celui des professionnels a changé. Et ça, je trouve que c'est super important. Et alors, je voulais quand même réagir par rapport à ce que vous avez dit. Je comprends votre souci de dire, bon, en rentrant dans un truc d'évaluation, c'est vrai que finalement, on est obligé de rentrer dans le cadre d'une certaine médecine, etc. Mais en même temps, je pense que s'il y a un dialogue qui est possible aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des endroits dans lesquels il y a un discours commun, enfin disons, dans un langage commun, qui est tenu à la fois par des usagers, par des professionnels. Et c'est ça qui a rendu aussi crédible, c'est une des choses qui a rendu crédible les usagers dans ce débat-là. Alors c'est vrai, après on peut faire en sorte de transformer même les critères de l'évaluation et de dire il n'y a pas qu'un seul modèle d'évaluation, on n'est pas obligé d'avoir des cohortes de 100 000 femmes, etc., etc. On peut faire des choses différemment, mais je crois quand même que c'est relativement important. Sinon, je voulais quand même poser une question. Alors là, c'était un peu dans la lignée de ce que disait Francis Dauphin, c'est par rapport au médico-légal. C'est-à-dire que quand même jusqu'à... Enfin, peut-être ça a changé, mais... Moi, j'ai encore entendu récemment des praticiens dans des hôpitaux, des sages-femmes, dire qu'une des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas changer de routine, on ne pouvait pas se passer d'une routine sourire, etc., c'était de dire qu'il y avait quand même une menace médico-légale qui n'avait cessé de croître dans les années précédentes, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de procès, enfin, en tout cas... dans lesquels finalement les experts qui avaient été mobilisés par les tribunaux finalement ne se référaient pas forcément aux données de la science mais se référaient aux habitudes de pratique française. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux praticiens pour disons déjouer cet argument, enfin leur montrer qu'ils ont tort d'avoir cette crainte et de baser toute leur pratique là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres choses comme la médiation, etc., qui peuvent arranger les choses, mais comment est-ce qu'on leur répond ? Est-ce que les experts aujourd'hui sont choisis différemment d'il y a 10 ans ?
Je vais vous donner un élément de réponse en tant qu'expert, justement. Alors, la sélection des experts est un grand problème national qui s'agite depuis longtemps, parce qu'en fait, ça repose sur une sélection qui est faite par le ministère de la Justice et qui n'était pas obligatoirement faite en collaboration avec les institutions. Alors là, au sens simplement représentatif, il n'y avait pas l'avis de l'ordre, de l'université, vous étiez fonction hospitalière ou pas, donc il y avait une espèce de patchwork mais on se demandait comment on était nommé expert. Donc c'est vrai que moi je reconnais que mon maître Sureau a mis longtemps avant d'être expert. Il avait fait une carrière internationale brillante, il a été nommé expert par hasard. Moi j'ai été nommé expert par hasard, c'est-à-dire que j'ai demandé pendant quelques temps, puis j'ai laissé tomber, puis un jour, pour je ne sais quelle raison, j'ai déposé mon dossier, il est passé comme ça. Alors il est passé comme ça parce que bah, j'avais plus de surface, et parce que les gens qui avaient bougé à l'intérieur se sont dit, j'étais président du collège à l'époque, ça serait peut-être bien dans le décor, etc. Bon, ça reste pour l'instant un peu mieux clarifié, parce que les modifications liées à la mise en place légale de la loi droit des malades, et de toutes les déclinaisons sur la prise en charge des infections nosocomiales et des aléas thérapeutiques a fait mettre des règles du jeu très strictes sur la détermination des experts judiciaires et des experts tout court de ces commissions nationales de recours sur des critères de professionnalisme reconnus. Alors ensuite, quand un expert est nommé, donc il est assistant du juge pour l'éclairer en tant qu'expert, médecin ou ingénieur ou n'importe quoi, pour apporter un éclairage, une lecture professionnelle qui doit être fondée sur les connaissances et sur les connaissances, recommandations professionnelles actuelles. Et là, le bât blesse parce que la lecture des recommandations professionnelles, comme vous le voyez, dépend de l'honnêteté intellectuelle, de la curiosité du professionnel. Il est clair que sur le même accouchement, on ne va peut-être pas lire la même chose si c'est moi ou le docteur machin, gentil gynécologue anonyme, ou un professeur qui fait ses règlements de compte lui-même par rapport à des professionnels tout venant. Donc il y a un bémol. Mais ce bémol, il sera partagé partout. Là, c'est de la lecture internationale. Tous les experts, à un certain moment, ont des imperfections. Il faudrait qu'ils soient plus... Alors, ce qui va nous aider, nous experts, c'est la publication de recommandations professionnelles de ces médecines factuelles, parce qu'on a enfin des vrais repères. Et des vrais repères qu'on ne peut pas éluder. Parce qu'il ne faut pas prendre les avocats pour des guignols. Ils ont des torts partagés, mais comme il y a un avocat de la défense et un avocat de la partie civile, les deux s'annulent. Mais les deux savent qu'il y a des recommandations professionnelles. Et ils vont dire, si l'expert ne s'appuie pas sur les recommandations publiées, surtout si elles sont nationales, que là, c'est un expert qui ne vaut pas une tripe, parce qu'il a oublié le seul truc qui est important. Il conduit, mais le code de la route, il s'assoit dessus. Donc en gros, ça nous contraint à avoir un minimum de rigueur. Alors bien sûr, après, la rigueur dépend de sa compétence. On nous demande d'être assorti d'une spécialité, mais d'avoir à l'intérieur une compétence. Moi, par exemple, je suis expert gynécologue obstétricien, diplôme universitaire de spécialité. Je n'accepte des expertises que dans le domaine de l'accouchement, de la grossesse et de ses suites. Je n'accepte pas personnellement d'expertise en chirurgie parce que je ne m'estime pas le plus top des chirurgiens gynécologues. Puis les expertises, il y en a suffisamment, ça prend un peu de temps. Mais je sais effectivement que j'ai peut-être pas la même lecture que d'autres dans ce domaine-là, parce que je m'appuie sur les recommandations et il m'arrive de trouver des critiques fondées sur un aspect qu'on n'attend pas dans l'expertise, peut-être, enfin que le médecin n'attend pas, parce qu'il a dévié sur certaines pratiques. Par exemple, je reproche à un collègue d'avoir fait pousser une patiente trop tôt sans qu'elle n'ait besoin de pousser. Je ne le reproche pas après de s'être démerdé dans une dystocie des épaules, mais on peut lire une continuité entre une mauvaise pratique de l'accouchement, une conséquence pour laquelle il s'est professionnellement honorablement tiré. Mais c'est peut-être un quart d'heure avant qu'il a loupé le truc, sur une multipart qui ne demandait rien à personne avec un rythme normal de surcroît. Donc vous voyez, bien sûr que c'est là le problème des experts. Les experts quand même évoluent sensiblement parce qu'ils ont à cœur de s'appuyer sur les recommandations ou sur les preuves scientifiques raisonnablement fondées, et ils ne s'appuient plus. Dans le milieu des experts circulent aussi des synthèses. Je peux vous dire qu'en matière de dystocie des épaules, qui est un problème assez courant en expertise obstétricale, un certain nombre de médecins, experts, passés, présents, à venir, ont aussi fait circuler dans les milieux de l'expertise médicale et peut-être dans les milieux de l'obstétrique, ce qu'il faut savoir des conséquences ou des analyses ou des comportements vis-à-vis de des accidents effectivement graves et imprévus, ce qui imite aussi les débordements traditionnels. Il y a une dystocie d'épaule, paf, l'obstétricien est coupable, point terminé, on ne discute pas. Donc il y a quand même des connaissances qui circulent et qui limitent un peu des interprétations à la va-vite. Mais ceci étant, vous aurez toujours la différence des uns et des autres, selon leur degré de confiance. On sait bien que dans les milieux professionnels, il y a des experts qui ont une bonne réputation parce qu'ils sont sérieux, attentifs et qu'ils analysent bien les faits. Il y en a d'autres dont on sait qu'ils règlent leur compte à la place du juge plutôt que d'analyser les faits, et que ça devient un peu pénible d'être sanctionné par le professeur machin plutôt que par monsieur le juge instruction. Donc, mais alors, le médico-légal dans cette optique, comment il s'applique ? En cas de problème, il y a plainte éventuellement judiciaire. Point. Or, le médico-légal qu'on vous donne, c'est le parapluie qu'on ouvre quand on a la flemme de se bouger. C'est à cause des plaintes qu'on va faire un enregistrement systématique. Mais les quelques plaintes pour anomalie du rythme, en général, c'est parce qu'il y a un rythme qu'il est pourri, qu'on n'a rien fait.
Donc là, c'est du vrai médico-légal. J'ai un enfant mort ou un enfant gravement handicapé. Quand vous validez le rythme, Hélène, mon épouse qui vient de partir, qui un jour qui est sage-femme, même si elle n'exerce plus, me voyait analyser un rythme sur une expertise à la maison. Et elle passe derrière un soir, elle me dit « Ouh là là, excusez-moi, elle n'aurait pas dit ça, elle m'a dit « Oh putain, en gros. Ouais. » Je lui dis « Ah oui, elle me dit le rythme, ça en est où là ?» Oh, ben, je lui dis « Attends, il y en a encore 2,50 m derrière, c'est-à-dire 4 heures de travail. Ouais. » Et ce qu'elle voyait qui n'était pas terrible, bien sûr, ça s'aggravait. Donc vous voyez ce genre de truc, c'est le médico-légal fait front à des plaintes authentiques sur un authentique problème qui sont la plupart du temps des situations caricaturales. Alors c'est pas ça qui doit faire dire, au fond enregistrer, pour, on peut discuter à l'infini d'enregistrement permanent, pas permanent, discontinu, il y a des papiers, il y a des trucs là-dessus. Mais quelque part, les bonnes pratiques vous mettent en gros à l'abri des plaintes, parce que quand vous savez ce qu'il faut faire quelque chose, vous le faites. Pour rejoindre tout ce qu'on a dit, moi mon sens, la sécurité, c'est d'accoucher dans des établissements où les professionnels qui prennent en charge sont conscients de leurs limites et de leur savoir-faire. C'est pas qu'ils mettent un enregistrement permanent, c'est pour ça. Si personne le lit, l'écran en plus, il peut y avoir tous les ralentissements de la Terre, l'appareil, il ne va pas sonner tout seul, ou s'il sonne et que personne vient, ça ne va pas changer la face du monde. Alors, avec ou sans la technique, si vous êtes présent parce que vous devez être là, que vous soyez sage-femme avec une population de grossesse à faible risque d'accouchement à domicile, que vous soyez obstétricien dans un hôpital, vous êtes là, et quand on vous appelle et qu'il y a un bémol, vous venez pour faire ce qu'on doit faire. Éventuellement rien, éventuellement quelque chose, mais c'est tout. Mais si vous ne venez pas, il y a beau y avoir toutes les alertes, c'est pire. Parce que le plaignant, il a la preuve qu'il y a eu un défaut de compétence professionnelle ou d'acte, parce que devant une alarme, on n'a rien fait. Ouais. C'est ça le problème. Alors il faut remettre le médico-légal à sa place. C'est l'ultime parade qui va corriger, dans le côté évaluatif, par les fautes, mérite des corrections, je ne dis pas des sanctions, ça c'est la justice de problème, des corrections parce qu'on n'a pas utilisé son savoir-faire professionnel ou ses compétences pour agir quand il fallait. Mais ce n'est pas à cause d'éventuelles plaintes sur des malfaçons, sur des défauts, sur des catastrophes, qu'il faut embarquer toutes les autres patientes, toute la population professionnelle, dans la crainte que si on ne fait pas ça, on est fautif. D'abord, il n'y a pas un gendarme à la porte de la salle de travail qui vient vérifier, ce n'est pas son boulot. C'est nous qui vérifions entre nous qu'on travaille correctement. Alors on peut dire qu'on a des mauvais référentiels, peut-être, qu'on en a des meilleurs, des plus modernes, espérons-le. Mais on doit travailler selon nos connaissances, en notre âme et conscience, de ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut, ni plus ni moins. Mais quand ça dérape, parce qu'on est là, on saisit. Alors ça peut être mettre la dame dans la baignoire, comme il vous l'a dit, ou ça peut être appeler le chirurgien pour faire une césarienne, parce qu'il y a des vraies raisons de le faire. Mais s'il n'était pas là, elle ne serait ni dans la baignoire, ni au bloc opératoire. Donc c'est là, le médico-légal, c'est la mauvaise réponse. Quand vous dites, une sage-femme vous dit, on ne peut pas y éviter, j'ai vu ça dans la littérature de la part d'une surveillante d'un grand hôpital parisien, on ne peut pas faire autre chose que 70% d'épisiotomie. Je me suis étranglé bruyamment chez moi parce que ça me paraît une inconséquence noire. Ça me paraît de sa part, alors une phrase tellement mal boutue que ça ne peut que lui retomber sur la tronche. À mon avis, elle est submergée de mails pour l'incendier. Ils ont raison. Parce que d'abord, s'ils en est là, attenons, à mon avis, elle ne regarde pas les chiffres, elle ne suit pas l'actualité, elle ne regarde pas ce qui se passe à droite, à gauche, elle ne lit pas la NAES et le reste.
Mais ici même, il y en a 75% hein, dans cet établissement.
Oui. Donc tout va bien. Mais je voudrais reprendre juste un tout petit point. Quand je dis que... Je me refuse à prouver que la physiologie, c'est ce qu'il y a de mieux.
Oui.
C'est que quand même, l'accouchement et la grossesse, c'est vu comme une situation à risque. Ça n'est pas une situation à risque. C'est une situation de vie, point à la ligne. On a besoin de prendre des précautions, comme on prend un certain nombre de précautions dans sa vie.
Hein, je veux dire,
comme en traversant, comme en prenant sa voiture, que si elle est mieux entretenue, on a moins de danger... moins de risque d'avoir un accident, ça n'empêche pas forcément, et ainsi de suite. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est la seule situation physiologique où aujourd'hui, il faudrait que nous prouvions que ça n'est pas dangereux. C'est tout. C'est-à-dire que je termine là-dessus. Hein. Non, mais c'est-à-dire que à aucun moment on se demande s'il est nécessaire de dormir. À aucun moment on se demande s'il est nécessaire de manger. Certes, on a des ados qui veulent dormir que 4 heures par nuit, etc. Donc il faudrait qu'il dorme plus. Mais en tous les cas, il n'y a pas à faire la preuve de la nécessité du sommeil. Parce que la naissance a basculé dans le domaine purement médical et de temps en temps quasiment purement technique, il faudrait maintenant que nous, physiologistes, j'allais dire, on reprouve que la physiologie, c'est bien. Ben, moi, je l'affirme, je dis la physiologie, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, et j'ai du mal à rentrer dans cette démarche de prouver que la physiologie, oui, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est le contraire qu'il faudrait prouver.
Le débat, on l'a eu quand on a fait les recommandations, oui, sur l'allaitement, parce qu'on s'est aperçu, alors, avec une quantité de littérature astronomique, que même des gens très bien formés au niveau international n'avaient pas su éluder le fait qu'on ne compare pas le physiologique au médicalisé. Il faut que le médicalisé ait l'intelligence de se dire qu'il s'approche, car il ne l'équilibrera jamais, qu'il s'approche du physiologique. Donc la référence du nouveau-né, c'est l'allaitement maternel, et il faut, à partir de cette base, comparer ce que font les enfants qui sont artificiellement nourris. Mais c'est dur, c'est démontré, et dans la littérature, on a du mal à s'y retrouver, parce qu'effectivement, depuis 50 ans, la base de connaissance des nouveau-nés en Occident, c'est des nouveau-nés qui, pour l'essentiel, étaient au moins allaités au biberon plus qu'au sein. Donc on s'aperçoit maintenant qu'il faut reconstituer un descriptif de la physiologie. C'est quoi la croissance du nouveau-né en allaitement exclusif en Occident? Et c'est ça qui devrait être les nouvelles courbes de référence et les, ouais, nouvelles évaluations, et non pas les courbes anciennes qui sont un mélange de patchwork. Alors, il faut remettre de l'ordre, effectivement, il faut que la physiologie elle soit décrite pour être la référence. Mais on ne va pas démontrer que l'allaitement maternel, c'est mieux que l'allaitement artificiel, et que l'accouchement physiologique, c'est mieux que l'accouchement médicalisé. Il faut mettre les choses dans l'ordre. On mesure pas, est-ce que quand le cœur fonctionne bien, il fonctionnerait mieux en mettant un médicament qu'en laissant la vie et le rythme cardiaque se faire. Hein, moi, j'ai répondu brutalement un jour à un collègue à propos des césariennes ou je ne sais pas quoi dans l'accouchement, que tel que je le connaissais, il allait tout de suite se faire une gastrostomie pour éviter d'avoir des caries dentaires. Comme c'était un bon vivant, je voyais bien aller au restaurant comme ça. Alors ça fait crouler de rire le professeur d'université qui m'a dit, vous le connaissez bien, je lui ai dit, on faisait des remplacements ensemble il y a 25 ans, alors je sais comment il est, mais je sais aussi qu'il manie la caricature pour pousser les orateurs jusqu'au bout de leur réflexion. Mais il y a un moment, la physiologie, c'est le fondement de la vie. Et on essaye de s'en rapprocher quand elle dévie. Et nous, on est là pour mesurer les déviations parce qu'il y a des problèmes, des mortalités, des morbidités. Et les pratiques qu'on y applique, elles doivent être exemptes de trop de complications, résoudre la question. Quand je vous ai montré direction du travail, la question, c'était, est-ce que ça résout le taux de césarienne? Réponse, ça ne résout pas le taux de césarienne.
Donc, on laisse tomber.
Voilà. Heureusement, on n'a pas laissé tomber et on encombre les patientes de syntocinon, de rupture, de perfusion. Alors que ça ne sert pas pour la grande majorité d'entre elles. Et on ne l'applique pas quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand il y a un vrai problème d'évolution du travail.
C'est tout le problème, c'est l'application quand c'est nécessaire.
Personnellement, vous prêchez le converti. Hein. Il y avait un Allemand qui était un spécialiste de santé publique, quand il a entendu des trucs comme ça, il a dit, et les petits noirs, vous ne vous rendez pas compte, on ne va quand même pas revenir à la situation.
Oui, sauf que les petits noirs actuellement, de ceux dont il parlait, ils ne vivent pas dans les conditions sanitaires, nutritives, sociales de l'Allemagne ou de l'Europe. C'est ça la différence.
C'est comparable.
La limite, nos éleveurs ont plus de bon sens, enfin, avec, parce qu'ils commencent à changer leur pratique aussi. Ils savaient très bien qu'un animal mal nourri allait donner que des problèmes.
Ils ont mis 20 ans à nous faire des poulets en maître. 50, je ne sais pas.
Il n'empêche que sans les associations de parents, et moi je prends beaucoup l'exemple anglais, même s'il n'est pas parfait, parce qu'il ne faut pas penser à l'Allemagne, oui, l'Angleterre, c'est le paradis de l'obstétrique. Mm-hmm. Mais la réflexion depuis 10 ans autour de Changing Childbirth et le poids du NCT, c'est-à-dire le collectif des associations, en Angleterre à l'heure actuelle, une bonne recommandation dans l'excellence, comme ils disent, c'est le NCT plus le Royal College des gynécologues obstétriciens, le Royal College des sages-femmes. Il y a trois acteurs pour écrire un papier. Ça me paraît l'avenir. Donc il faut que notre culture française, ça ne va pas du jour au lendemain arriver. Les bonnes volontés que vous êtes, vous ne pouvez pas vous dupliquer pour être partout dans tous les établissements tout de suite. Donc il faut que ça prenne de l'ampleur. Mais on a besoin des représentants dignes des associations de consommateurs au sens large du terme pour participer au fonctionnement professionnel.
Ouais. Pour prendre l'ampleur, on arrive à dire des choses maintenant dans certains endroits qu'on n'aurait jamais pu dire.
Il y a un lieu où ça rentre bien, c'est dans la constitution des réseaux. Comme le réseau périnatal, c'est un truc tout neuf. Les professionnels y vont avec des interrogations. En général, ceux qui veulent les mettre en place, ils seront un peu plus modernes. Donc, que tout de suite, on s'agrège avec les associations du coin, les femmes migrantes, parce qu'elles prennent linguistique, et on est tous bien contents. Et du coup, ça marche mieux que dans les institutions trop anciennes.
Il faut profiter de cette dynamique.
Profiter du réseau pour introduire.
Enfin, nous, en tant que SIAN, on recrute au maximum, citant les parents. Quel que soit leur niveau de compétence, ils peuvent se former. On envisage même de faire des sessions de formation en fait pour des parents qui vont ensuite siéger dans des commissions régionales de la naissance ou ailleurs.
On va les faire,
voilà. C'est juste une
une question de temps et de disponibilité.
Au niveau des professionnels, justement, vous parliez de bonnes pratiques, comment faire en sorte qu'ils les apprennent?
Ah, on a, ils ont une obligation.
Ah, ben ça, il y a des obligations professionnelles. Là, je veux vous dire que les trucs qui descendent des accréditations et autres, ça va quand même tomber sur le truc. C'est-à-dire que d'ici quelques temps, alors je ne peux pas vous dire si c'est 3 ans ou 5 ans, on n'aura pas des exercices professionnels pour toute la vie. On va enfin le perdre en France, parce que c'est comme ça que ça existe dans beaucoup de pays occidentaux. Alors aux États-Unis, ça existe très bien parce qu'ils ont un système ultra-libéral, c'est que vous n'êtes pas compétent, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas le droit de faire. Point barre. Ça ne veut pas dire qu'ils fonctionnent tous bien, mais enfin en gros, ça donne une cohérence sur les activités techniques. Ceux qui les font sont ceux qui sont capables de les faire, qui les font bien, qui sont formés, qui sont assurés. Donc ça va finir par tomber, parce que c'est inévitable dans les processus d'accréditation. On ne peut pas être le gynécologue, obstétricien ou l'ophtalmo pendant toujours sans rien faire, sans se remuer, sans appliquer ses obligations non repoussées de formation professionnelle,
sans lire la presse,
etc. etc. Donc on finira par avoir quand même des réalités que appliquer à un certain degré les recommandations professionnelles, c'est inscrit quelque part dans votre CV, dans votre évaluation professionnelle, dans le renouvellement de vos autorisations professionnelles. Des structures ad hoc, je ne saurais vous dire, mais en général, dans les pays où ça fonctionne bien, c'est exclusivement professionnel et jalousement professionnel et remarquable. Mais ce n'est pas des pays, ce n'est pas la France. Alors on saura ce soir si la France est dans l'Europe, on verra si on peut.
Merci.
Bien.
Merci à tous.
Merci beaucoup.